Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est le groupe d'Amnesty International Évreux pour sa première émission du mois
de décembre,
bien sûr, consacrée à la défense des droits humains et sous tous ces aspects et par rapport à tous les sujets possibles et imaginables. Et on fait tout de suite un petit clin d'œil aux gens qui viennent d'animer l'émission avant nous et qui ont parlé longuement des problèmes de scandales d'esclavage en Libye et tout ce qui tourne autour. Et pour dire que nous aussi, on va dire quelques mots sur cette situation, plus que quelques mots, on vous en a déjà parlé, mais on va recommencer ce soir parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur et c'est quelque chose sur lequel l'Amnesty travaille depuis très longtemps.
Je crois qu'il y a un rapport qui vient de sortir.
Intéressant. Voilà. Mais on va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure.
Attendez.
Vous venez d'entendre Edith qui est avec
Bonsoir.
Nous. Et de l'autre côté, à ma gauche et à ma droite, il y a Edith, à ma gauche, il y a François.
Vous pouvez imaginer
Bonsoir.
Comme ça.
Oui, vous
et en face de nous.
Et en face, il y a Ronan.
Voilà. Bonsoir.
Voilà. Et moi, je suis au milieu, par votre conséquence.
Et Ronan, est-ce que tu vois la personne au milieu?
Je pense que c'est Didier.
Ouais, gagner tout le monde.
Donc, la Libye, on va vous en parler effectivement encore une fois ce soir, et tout ce qui touche autour, et toute cette honte de violations graves des droits humains qui se perpétuent en Libye à l'heure actuelle. Et effectivement, comme a dit Edith, il y a un rapport qui vient de parler, mais il y a quelqu'un qui va vous en parler mieux que nous, et que vous allez attendre dans quelques secondes. Par contre, non, t'inquiète pas, c'est pas tout de suite, il y a Ronan qui se précipite. On commence l'émission par un autre sujet. On voulait tirer un grand coup de chapeau parce que c'est quelque chose.
Attends, on peut leur poser la question à nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On vous en a parlé il y a 15 jours.
Oui, c'est vrai.
Je pense que ça a dû durer une dizaine de jours.
Ouais, 10 jours même carrément.
Ouais,
c'est bien.
Dix jours.
10 personnes.
10 cas.
10 cas.
Voilà.
Et des signatures.
C'était la
pour
campagne de 10 décembre, enfin 10 jours pour signer. Et donc, qui ont été largement reprises dans nos antennes jeunes qui sont créées récemment ou qui ont été remises à flot, dirons-nous, enfin en activité récemment. Donc, il y avait Évreux avec Aristide Briand.
Ouais, alors une antenne, c'est pas une antenne sur le toit,
non,
parce que c'est les mots amnistiens, ça. C'est un groupe,
c'est un
de,
groupe
jeunes
de jeunes
super intéressés, super dynamiques.
Qui se motivent pour Amnesty et qui viennent travailler avec nous. Donc, il y avait l'antenne d'Aristide Briand à Évreux, il y avait l'antenne du lycée Porte de Normandie à Verneuil, avec qui ont été aussi aidés d'ailleurs par les gens d'à côté de l'école des Roches, et la dernière antenne qui n'a pas tout à fait fini d'ailleurs parce qu'elle termine aujourd'hui et demain, c'est l'antenne du lycée Fresnel à Bernay. Donc grâce à toute la mobilisation de ces gens-là, et puis la nôtre aussi parce qu'on a quand même tenu un stand
samedi dernier. Il y avait le stand sur le verglas,
voilà, le stand
samedi matin.
Oui, avec le froid. Devant Artisans du Monde. Mais heureusement qu'on a eu des cafés très chauds pour se réchauffer.
Et j'ai vu qu'il y avait du vin chaud pour ce matin aussi.
Du vin chaud le matin aussi, mais oui.
Mais moi, j'ai pas bu de vin chaud, je me suis arrêté au café.
Moi aussi.
Et donc, grâce à toutes ces mobilisations à droite et à gauche, eh bien, on a pulvérisé tous les records d'actions et de signatures qu'a pu obtenir Amnesty Évreux, je pense, depuis qu'on existe. Puisque déjà, on n'a pas le chiffre définitif encore, mais on va dépasser largement les 10 000 signatures.
Oh là là !
Sur l'échelon, bien sûr, purement hébreuicien. Hein. Bien sûr, la campagne, au niveau national et international, c'est des millions d'actions. Mais pour nous, au niveau local, on en est arrivé à plus de 10 000. Donc, coup de chapeau.
Merci à tous ces jeunes.
Coup de chapeau, s'ils nous écoutent ce soir sur l'antenne de Principe Actif, tous ceux qui ont travaillé avec nous pendant ces 10 jours, on a déjà les remerciements de Paris, puisque j'ai envoyé un premier bilan provisoire, et on a déjà les remerciements de Paris pour l'importance de la mobilisation. Voilà, donc on est très content de voir effectivement ces jeunes générations qui se sont interpellées par la problématique des droits humains, dont on vous parle depuis des années sur l'antenne de Principe Actif, et également d'être sensibilisés par rapport à tout ce qu'on représente, et ça nous fait bien plaisir.
Ah oui, ça vraiment.
Et je pense que on pourrait venir vous parler directement à une émission de radio, hein?
Oui.
On va voir ça un peu, oui, comme ça, ça vous va. Allez pouvoir les entendre aussi.
Ça va se faire,
je pense. Enfin, bon, ça va, on va mettre ça sur pied.
On laisse passer les fêtes.
Voilà. Donc, encore une fois, merci à tous nos nouveaux amis et jeunes amis des Antennes Jeunes. Et puis, c'était la première action en collaboration avec eux. Ce ne sera pas la dernière, c'est sûr. Et puis, on remercie aussi, bien sûr, les administrations des lycées correspondants qui nous ont laissé faire cette campagne et qui nous ont même, dans la plupart des cas, facilité les choses.
Tout à fait.
Voilà. On voulait, comme je vous disais au début, on voulait vous parler de tout ce qui se passe en Libye. Et donc, on a un petit enregistrement qui est passé ce matin à France Inter, très tôt. Et c'est Jean-François Dubost, qui est le permanent d'Amnesty à Paris pour tout ce qui concerne les campagnes sur les réfugiés, qui vous en parle bien mieux que nous. Et
tout
ça dure
fait.
À peu près 6 minutes.
France Inter, Hélène Roussel. 5-7.
Il est 6h22. Bonjour Jean-François Dubost.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le 5-7 de France Inter. Vous êtes responsable du programme Protection des Populations à Amnesty France. Amnesty International qui sort un rapport au vitriol ce matin sur la responsabilité de l'Union Européenne quant au sort des migrants en Libye. On peut lire que les Européens sont complices des trafiquants et des gardes-côtes libyens. Ce rapport, c'est un j'accuse, Jean-François Dubost.
Tout à fait, oui. C'est un j'accuse et argumenté et précis. Nous démontrons que l'Union européenne, en fournissant de l'aide aux gardes-côtes libyens, en fournissant de l'aide à ceux qui gèrent ces centres de détention dans lesquels les personnes sont torturées, parfois même exécutées, et en travaillant avec certaines milices ou tribus du sud de la Libye, l'Union européenne s'est rendue coupable de bloquer ces migrants et ces réfugiés définitivement dans l'enfer libyen. Donc oui, il y a une responsabilité juridique de tous les États membres de l'Union européenne.
Depuis un an, l'Union européenne est davantage préoccupée par la fermeture de la route migratoire, plus que du sort des migrants qui restent bloqués sur place, c'est ça ?
Exactement, en fait c'est le seul objectif. Alors il y a eu un vernis humanitaire disant qu'on allait sauver des vies en Méditerranée, mais en réalité cela est revenu à couper la route migratoire, comme on l'appelle, en Libye, et à bloquer définitivement, à piéger ces milliers, centaines de milliers de personnes en Libye, alors qu'on savait pertinemment ce qui les attendait, la torture, la mort, l'extorsion, la réduction en esclavage au travail forcé et la vente.
Ah, pourtant, mi-novembre, Emmanuel Macron avait dénoncé des crimes contre l'humanité, on se souvient de son déplacement en Afrique, il avait même annoncé que la France serait la première à accueillir des migrants de Libye, une vingtaine, je crois, dans un premier temps. Alors, il y a quoi ? Il y a le discours et les actes, Jean-François Dubost ?
Oui, il y a un discours et il y a des actes, tous les deux imparfaits. C'est-à-dire, dans le discours, on s'est beaucoup ému de ce qui se passait en Libye. Dans les actes, on a commencé à s'occuper de certaines personnes qu'effectivement, on a rapatriées ou qu'on est en train de rapatrier ou réinstaller sur le territoire français. En revanche, ce que l'on attend et ce que l'on a dit d'ailleurs à M. Macron, c'est que nous aurions aimé la même intensité, la même énergie pour dire que ce que faisait l'Union européenne encore aujourd'hui conduisait justement à ces souffrances qu'au grand jour et devant le public et l'opinion publique française, on dénonce. Donc, on demande de la cohérence.
Il y a une ambivalence, quoi.
Absolument.
Alors, pour ce rapport, Amnesty a interrogé des représentants européens, de l'ONU, mais aussi des migrants, des dizaines de témoignages à l'appui. Est-ce que vous pouvez nous en citer un, nous raconter ce que ces migrants vivent en Libye, ce qu'ils racontent ?
Oui, le témoignage type, en fait, parce qu'il y en a des dizaines et des centaines et certainement des milliers et plus encore, ce sont des personnes qui arrivent via des trafiquants en Libye. À la frontière sud, ils sont vendus à des groupes armés, des milices qui opèrent sur le territoire libyen, puisqu'il n'y a quasiment plus d'État.
Donc vous confirmez ces ventes aux enchères
Il y a des ventes de migrants, oui, tout à fait. Il y a des ventes de migrants. C'était connu bien avant le reportage de CNN d'ailleurs. Cela l'a exposé avec les images frappantes dont on se souvient. Mais ils sont vendus et c'est fréquent et pas simplement une seule fois parce que lorsqu'ils arrivent à payer leur rançon ensuite pour tenter de sortir des mains de ces trafiquants à qui ils ont été vendus, donc ça passe par la torture. On allume le téléphone, on appelle les membres de la famille ou des proches et on les entend crier, hurler sous les souffrances, enfin sous les coups, sous la torture. Et bien ces personnes ensuite peuvent payer leur rançon et elles sont de nouveau vendues à une autre personne. Donc en fait pas vraiment libérées. Et tout ça se continue jusqu'aux côtes libyennes où des localités entières, où des zones, des hangars désaffectés ou des entreprises désaffectées sont sous la mainmise de trafiquants, de milices qui sont de mèche parfois avec les gardes-côtes libyens. Donc c'est vraiment un système organisé. C'est pour ça que lorsque l'Union européenne donne de l'argent aux gardes-côtes libyens, en réalité c'est aussi indirectement ou directement donner de l'argent à ceux qui profitent de l'exploitation d'hommes, de femmes et d'enfants.
Vous dites que finalement on connaissait cette situation bien avant le reportage de CNN. L'Union européenne, les pays membres aussi ?
Bien sûr, et c'est là où, d'ailleurs, c'est la base de cette complicité que nous dénonçons, c'est qu'en réalité, les États ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, ils sont tenus d'évaluer les conséquences de leurs actes. Or là, ils avaient parfaitement tous les éléments en main pour savoir que si ils coopéraient dans cette direction avec les autorités libyennes, les gardes-côtes et parfois des certaines localités ou groupes armés, eh bien, ils allaient conduire à la souffrance de personnes.
Jean-François Dubost, quelles sont les recommandations du rapport d'Amnesty ?
Nous en avons deux types. Le premier type, c'est par rapport aux autorités libyennes, il y en a quelques-unes, il faut libérer les 20 000 personnes qui sont détenues dans des centres centres officiels de détention hommes, femmes et enfants. C'est immédiat et c'est sans appel. La deuxième demande, c'est qu'il faut absolument que la Libye ratifie ce texte principal qui permet ensuite de protéger les réfugiés, la Convention de Genève de 1951. Et puis à l'Union européenne, c'est évidemment faire pression et pas simplement donner de l'argent, mais faire pression auprès de ses autorités dans ce sens. Et c'est surtout revoir sa politique de coopération, c'est possible. Et nous le demandons en particulier à la France.
On peut les accueillir, ces 20 000 réfugiés, sachant que depuis l'été 2015, l'Union européenne avait quand même imaginé répartir 120 000 migrants. On en est toujours loin.
En fait, il y a ce que l'on peut faire et ce que l'on veut faire. Ce que l'on peut faire, c'est que 20 000 personnes, c'est parfaitement possible pour l'Union européenne, 27 États membres à accueillir. En revanche, ce que l'on veut faire, eh bien, c'est à nous et aussi à nous, les citoyens européens et sociétés civiles, de mettre la pression sur nos responsables pour qu'ils passent à l'action et qu'ils ne se contentent pas d'une indignation de façade.
Vous espérez que c'est à ça que va servir votre rapport, une sorte de coup de poing sur la table, que les Européens réagissent ?
Oui, bien sûr, c'est tout l'objet de ce rapport, mais il n'y a pas simplement cette publication, il y a aussi tout notre travail derrière, et puis un appel aux citoyens européens à nous rejoindre. Il y a une pétition en ligne dès aujourd'hui sur amnesty.fr pour justement mettre la pression sur les responsables européens, M. Juncker, en particulier le président de la Commission européenne.
Alors, vous dites enfin qu'il faut repenser donc la coopération avec la Libye, si je comprends bien, entre l'Union européenne et la Libye, mais depuis la chute en 2011 du régime Kadhafi, on peut dire que c'est l'instabilité politique, le vide sécuritaire. Croyez-vous vraiment que les autorités, même si elles en avaient l'intention, aient le pouvoir d'agir sur les milices et les passeurs, je parle des autorités libyennes.
Les autorités libyennes, dans une certaine mesure, il y a des accords qui ont été conclus sous l'égide de l'Italie entre le gouvernement reconnu et certaines milices armées. Donc c'est possible. L'Union européenne a bien plus cette possibilité-là parce que, par exemple, elle a mis 46,3 millions d'euros sur la table via l'Italie pour travailler avec les autorités libyennes, mais également certaines localités, tribus du Sud et environ 14 villes libyennes pour les impliquer dans la lutte contre le trafic de migrants. Donc on voit bien que lorsque on est déterminé, l'Union européenne a les moyens d'agir et d'ailleurs agit. Simplement, nous on dit qu'il faut rectifier cette coopération, cette action en la mettant dans le bon sens, à savoir d'abord s'assurer que les personnes sont protégées, qu'il y a un certain niveau de garantie assurée pour que les gens ne soient pas torturés, détenus, et ensuite continuer la coopération. On n'est pas contre la coopération, simplement on veut une bonne coopération plutôt qu'une coopération fondée sur on ne veut plus voir ces migrants et on les bloque et on les piège en Libye.
Pour vous, aujourd'hui, ce sera ma dernière question, Jean-François Dubost, l'Union européenne est complice de crimes contre l'humanité ?
Nous n'allons pas jusque-là parce que c'est très grave cette accusation, il faut pouvoir le démontrer, y compris l'existence de crimes contre l'humanité. Ce que nous disons, c'est que l'Union européenne est complice des violations, des souffrances que subissent aujourd'hui les réfugiés, les migrants en Libye.
Jean-François Dubost, merci. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Protection des populations à Amnesty France. Merci d'avoir détaillé pour nous ce rapport d'Amnesty International qui sort aujourd'hui et qui pointe du doigt donc la complicité des Européens dans les abus sur les migrants en Libye. Interview à réécouter sur franceinter.fr.
Eh bien voilà, donc à réécouter aussi sur le site de Principe Actif, puisque notre émission sera mise en ligne, donc vous aurez la même chronique, effectivement. Bon, c'est le tableau qui est dressé par Jean-François est tout à fait complet. En quelques minutes, effectivement, il reste un tableau suffisamment pertinent de la situation en Libye. Donc il n'est pas très utile de rajouter grand-chose par rapport à ça. Simplement, j'aurais rappelé ce qu'il avait déclaré, le même Jean-François, ce qu'il avait déclaré, encore une fois, quand il y a eu les accords, j'en ai déjà parlé ici, mais il est bon de le répéter, quand il y a eu les accords de signer entre la France, l'Allemagne et la Turquie, il y a 2 ans, pour bloquer le passage des migrants et des réfugiés à travers la Turquie. Et il avait fait une déclaration au nom d'Amnesty France en disant c'est la pire des solutions parce que ces gens-là vont passer par la Libye de plus en plus et ce sera l'enfer pour eux. Et voilà, et 2 ans après, effectivement, on découvre de façon très hypocrite pour les officiels que c'est devenu l'enfer pour eux. Et ben oui, on le savait avant.
Qu'on en avait aussi parlé, nous, sur la radio, nos fidèles auditeurs, rappelez-vous.
Tout à fait. Alors juste pour terminer, c'est pas directement dans ce rapport. Moi, je l'ai récupéré le rapport parce qu'il est paru aujourd'hui. Bon, il est en anglais.
Mais attends, juste dit avant que tu commences, je pense que ce que disait aussi Jean-François Dubost, c'est qu'il faut aller signer sur le site.
Oui, complètement.
C'est-à-dire que par rapport à l'Europe, là, on a aussi notre responsabilité, c'est-à-dire que si Juncker, il a des milliers, des millions de signatures pour lui dire, attendez, arrêtez vos conneries, parce que je suis désolée, c'est vraiment ça. Arrêtez de nous faire croire que vous êtes bon d'un côté, de l'autre côté, vous savez très bien que les gens vont être dans une situation lamentable. Comme tu nous le rappelles, voilà, il faut vraiment. Votre poids, c'est signé, c'est la même chose qu'Amnesty. Là, c'est sur le site, c'est encore plus facile, franchement.
Oui, tout à fait. La pétition est en ligne depuis ce matin. Moi, je l'ai signée aussitôt, mais bon, effectivement, il ne faut pas hésiter. Et encore une fois, c'est le nombre de signatures
qui fera la différence. Faites signer vos voisins, votre tante, votre grand-mère,
tout à fait raison de rappeler ça. Et puis donc, bon, je voulais juste finir cette petite chronique d'actualité, si on peut dire, par rapport à ces chiffres qui sont parus dans la chronique, justement. C'est c'est pas
le journal d'Amnesty tous les mois, très bien fait. Vous pouvez vous abonner même si vous n'êtes pas militant Amnesty.
Donc ce mois-ci, il y a un tableau. Alors évidemment, c'est un tableau, alors c'est pas très radiophonique.
Oui, mais il est bien fait.
Mais il y a un tableau qui parle de la réinstallation,
c'est un drôle de mot.
Voilà, dont les membres de l'Union européenne, dont la France s'était engagée à faire de la réinstallation de réfugiés. Alors en deux mots, la réinstallation, c'est les pays s'engagent par rapport à leurs possibilités économiques, de population, etc. Elles s'engagent à récupérer un certain nombre de réfugiés, des gens qui ont le statut de réfugiés, mais qui sont dans des conditions précaires dans d'autres pays. Donc, effectivement, pour leur donner des conditions de vie plus décentes que la situation dans laquelle ils sont. Donc, c'est de la réinstallation. On ne statue pas sur le fait que la personne soit réfugiée, c'est déjà fait, mais on lui propose des conditions de vie plus décentes.
Très souvent, des femmes, des enfants, des gens malades, des personnes âgées. Etc.
Donc, les pays de l'Union européenne s'étaient engagés à un certain nombre de réinstallations. Et donc, ce programme vient d'atteindre son terme. Donc, il est dit, le programme de relocalisation des réfugiés arrivés en Italie et en Grèce, lancé en septembre 2015 par l'Union européenne, s'est achevé fin septembre. Bilan. Les États membres n'ont atteint que 28,7% de l'objectif fixé.
Oui.
La Hongrie et la Pologne n'ont rien fait. Seule Malte a pleinement respecté son engagement. Donc, encore une fois, quand on parle d'hypocrisie, même par rapport à des gens qui sont déjà réfugiés et qui sont déjà arrivés en Europe, les pays européens ne tiennent même pas leurs engagements. Bon, il y a quand même des pays qui s'en sortent mieux, là, comme je vous disais,
c'est
un tableau.
Oui, parce qu'il y en a, on voit en rouge.
Voilà, les pays du Nord. La Finlande a fait 94% du chiffre qu'elle avait promis de faire, c'est pas mal. La Suède, 50%. Bon, ça pourrait être mieux, mais c'est la moitié. Les Pays-Bas, 93%. La Lettonie, les Pays-Baltes, effectivement, sont très bien placés. Lettonie, 76%. La Lituanie, 57% quasiment.
Et
Malte, donc, comme on disait, 100%. L'Autriche, 0,8%. La Pologne et la Hongrie, 0%, parce qu'ils m'ont
récupéré. Ah, ils ont mis du barbelé. C'est du barbelé qu'ils ont accueilli, tout autour.
L'Irlande s'en sort pas mal, avec 76,5% de réinstallation de réfugiés. Et la France, comme disait Edith, on est dans le peloton de queue, puisqu'on dépasse à peine, on dépasse les 21%, mais on n'atteint pas 22%. Mmh. Donc, M. Macron, qui fait des grandes déclarations le 10 décembre, dimanche dernier, au moment de la Journée internationale des droits de l'homme, de grandes déclarations vis-à-vis desquelles on ne peut que contresigner, mais dans les actes, rien, effectivement. La France ne respecte même pas son quota, entre guillemets, de réinstallation de réfugiés.
Voilà. Ah, quand même, ça avait été décidé en 2015, Macron n'était pas là.
Tout à fait. Je suis d'accord, Françoise. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le suivi des gens qui l'ont précédé, la situation n'évolue pas plus dans le bon sens. Je ne fais pas de procès d'intention à M. Macron. Je constate qu'il ne fait rien de plus que les autres. Voilà. Mais je crois qu'on va reparler tout à l'heure avec Roland, d'ailleurs, de M. Macron. Donc voilà ce qu'on pouvait rajouter. Bon, maintenant, il y a d'autres sujets, bien évidemment, par rapport à la défense des droits humains.
Mais là aussi...
Je pense que c'est Edith qui va
vous
dire quelques mots.
Voilà, mais moi, je voudrais continuer sur ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a très peu de personnes qui sont arrivées en France. Mais est-ce qu'on a beaucoup entendu des citoyens français demandant à leur maire, à leurs députés, leur dire « Nous, on est prêts, on peut accueillir des gens,
on a des surfaces. » La télé l'autre jour sur des Parisiens, des commerçants parisiens qui mettaient des matelas, si tu veux, la nuit pour loger dans leur boutique les gens.
Voilà.
C'est la première fois que je le vois. Hein.
Je pense que là aussi, il y a une volonté citoyenne. C'est-à-dire que là, de toute manière, la statistique, ça ne gêne pas les politiques. Mais si le citoyen dit, mais attendez, on avait dit qu'on devait accueillir... La quantité de personnes, ce n'est pas très, très important. C'est quelques milliers de personnes. Voilà.
3 000
pour une population en France...
66 millions à l'heure actuelle.
Voilà. Donc, c'est ridicule, suffit aussi de faire un tout petit peu de... un petit peu de poids aussi au niveau des politiques, là, aussi.
Oui, bien sûr. Parce que les initiatives citoyennes, et heureusement qu'il y en a un certain nombre, y compris
effectivement,
des gens,
il y a des endroits où il y a des gens qui se sont mobilisés.
Bien sûr, des gens d'Amnesty ou d'autres associations, il y en a un certain nombre. Mais nous, ce qu'on rappelle effectivement, et notre présence ici, c'est pour faire pression au niveau des officiels, bien évidemment. Les initiatives individuelles sont tout à fait respectables.
Mais avec les réseaux sociaux, le poids de chaque personne est quand même importante. Il ne faut pas hésiter.
Voilà, la France était engagée, je reprends le chiffre, à accueillir Non, elle en a engagé, elle en a récupéré 3948. Oui, ce qui représente 22%. Donc, elle s'était engagée sur un chiffre plus élevé, effectivement. Donc, il faudrait faire le calcul parce que le chiffre n'est pas donné. Bon, enfin, bon, ça. Mais, enfin, de toute façon, ça reste quelque chose, effectivement, de dérisoire par rapport à la situation de ces gens qui sont, dans, en général, dans la plus grande des détresses. Voilà. Donc, maintenant, on va changer de sujet parce que.
Alors, moi, je.
À d'autres choses.
Traverse l'Atlantique. Et qui vais-je voir de ce côté de l'Atlantique ?
Je pense savoir.
Vas-y. Allez.
C'est pas Trump ?
Eh bien, oui. C'est Donald Trump. Alors, vous avez dû en entendre au niveau, parler au niveau des informations, des journaux. Eh bien, il a reconnu Jérusalem comme la capitale unifiée d'Israël et a dit qu'il déménagerait à Jérusalem son ambassade. Alors, effectivement, Amnesty pense que c'est une décision complètement irresponsable. Quelques explications. Cette décision très provocatrice du gouvernement Trump met encore plus en péril les droits humains du peuple palestinien et risque d'attiser les tensions dans la région. Je pense que vous avez aussi vu qu'il y a eu pas mal de manifestations dans les pays arabes, même très éloignés d'Israël, oui, pour exprimer leur mécontentement. Car effectivement, en reconnaissant Israël comme capitale unifiée d'Israël, en annonçant le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, Trump montre une nouvelle fois son mépris et honté pour le droit international. Car les zones constituant la Cisjordanie, dont Israël-Est, qui est passée sous contrôle israélien...
Jérusalem-Est, parce que c'est Israël.
Ah oui, Israël, Jérusalem, oui, en plus, j'ai le... et qui est passée, merci Didier, sous contrôle israélien en 1967. Alors, ça semble vieux peut-être pour les jeunes, mais c'était au moment de...
C'est ma naissance.
Oh, là, je l'ai senti bonne.
C'était la guerre des six jours.
Ouais, voilà, c'était la guerre entre Israël et la Palestine.
Moi, je
me
rappelle, François aussi, on se rappelle de la guerre des six jours.
Donc, à ce moment-là, frontières a été intégrées dans les frontières municipales de Jérusalem par Israël, donc universellement reconnues comme un territoire occupé, où le droit international humanitaire s'applique. Donc, l'annexion illégale de Jérusalem-Est par l'USA a été entérinée dans la législation nationale en 1980. Et elle a été condamnée à plusieurs reprises par la communauté internationale dans une série de résolutions du Conseil de sécurité. Car Jérusalem a plusieurs secteurs, dont un qui correspond aussi à un secteur au niveau des Palestiniens. Donc le fait de vouloir mettre sa capitale à Israël risque
à Jérusalem.
Et je veux absolument voilà, oui. Israël-Jérusalem.
Edith confond Jérusalem et Israël.
Ben non, c'est parce que voilà, j'ai fait un copier-coller et j'étais un
mais
petit peu rapide
sur certains mots. Les auditeurs comprennent, ils vont traduire.
Voilà, ça risque absolument de remettre en péril l'équilibre très peu satisfaisant entre Israël et la Palestine actuellement et vraiment ne pas permettre un début peut-être de pourparler, ce qui est un petit peu sur lancé actuellement au niveau de Israël et de la Palestine. Voilà, donc on est bien soucieux de cette dernière décision un peu étonnante et surtout très provocatrice de Trump.
D'accord.
Eh bien, moi, je vais vous lire une action urgente qui vient d'arriver ce soir. Voilà, Israël et territoires occupés. Une action qui a été envoyée par Toulouse le 12 décembre. Voilà, une communauté bédouine risque d'être expulsée d'un moment à l'autre. L'armée israélienne a ordonné l'expulsion de 58 familles bédouines palestiniennes à Jabal al-Baba, à l'est de Jérusalem. Cet ordre d'expulsion doit être annulé immédiatement. Le 16 novembre, l'armée israélienne a émis une ordonnance militaire qui chasserait toute la communauté bédouine de Jabal al-Baba, qui fait partie de la tribu des Jaalins, de son lieu de résidence actuel situé dans la zone C de la Cisjordanie, à l'est de Jérusalem. Jabal al-Baba figure parmi 46 villages bédouins, risquant d'être évacués de force. Cette communauté est composée de 58 familles, comptant environ 290 personnes au total, dont 151 enfants. L'ordonnance militaire, émise le 1er novembre, somme tous les habitants du village de quitter leur demeure et d'emporter leurs effets personnels sous 8 jours. Ces derniers n'en ont été informés que le 16 novembre, alors que le délai qui leur a été donné pour évacuer les lieux expirait le 23 novembre. L'ordonnance d'expulsion a été émise pour absence de titre de propriété et construction et occupation de sol illégal. l'avocat des habitants, a déposé un recours le 22 novembre, mais celui-ci a été rejeté le 6 décembre. Bien que l'armée israélienne n'ait pas encore mis son ordonnance à exécution, cette mesure déracinerait l'une des communautés les plus pauvres de Cisjordanie et constituerait un transfert forcé de population qui est un crime de guerre. L'administration civile israélienne, instance militaire qui gouverne la Cisjordanie occupée, envisage de déplacer le village sur un terrain situé à environ 300 mètres de l'ancienne décharge municipale de Jérusalem, près de la ville palestinienne d'Abu Dis. Les habitants ont déclaré à Amnesty International que depuis que l'avis d'expulsion a été émis, ils vivent dans un état de peur et d'anxiété permanent, surtout les enfants. La destruction répétée des logements et des sources de revenus de la communauté, qui vise à faire pression sur celle-ci pour qu'elle se déplace, constitue une violation du droit international humanitaire et relatif aux droits humains. Donc, pour signaler ce fait, on nous demande d'envoyer une action urgente avant le 18 janvier, dernière date. Donc, si vous êtes intéressé par cette action, nous écrivons au Premier ministre, au commandant de la Cisjordanie, et ensuite au ministre de la Défense, et nous envoyons une copie à l'ambassade d'Israël à Paris. Donc, pour ce faire, vous nous mettez un petit mot sur amnesty.evreux@gmail.com en demandant qu'on vous envoie l'action urgente et vous écrivez, on vous donnera un modèle de lettre. Voilà, merci beaucoup en tout cas.
Il n'y a rien à rajouter, tu as tout dit là.
Ben c'est ça, ah ouais, c'est exactement c'est ça. Impeccable. Et c'est très bien de refaire une action urgente, parce que c'est un petit moment qu'on n'en avait pas fait, mais c'est tout à fait typique de cette démarche. Quelques minutes de musique. Retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, on vient d'entendre les Cranberries, et c'est un groupe qui est un petit peu ancien maintenant, mais bon, c'est pas grave. Et un morceau qui s'appelle Time is Taking Out, je crois, si j'ai bonne mémoire, parce que Renan m'a piqué la pochette.
Je Attends, même plus le titre. Et pour dire la vérité, j'ai voulu te dire le titre pendant la pause et tu m'as dit, t'inquiète pas, je le connais.
Je sais, donc maintenant, on est témoin.
Time is Ticking Out.
C'est ça. Et c'est la bonne réponse.
Et ben, c'est ça.
Bravo.
Et pour les anglicistes, pour ceux qui ont compris les paroles, ça parle de sujets qui ne sont pas du tout éloignés de tout ce qu'on vous vient de dire. Voilà. Donc de retour sur l'antenne de Principe Actif, il y a Edith qui voulait encore vous faire
oui.
un petit point sur ce qu'on vient de dire juste avant la pause.
Franchement, on n'a pas calculé avec Françoise, mais moi je vous parlais la décision de Trump par rapport à mettre Israël comme capitale. Françoise, elle continue sur l'action urgente, et moi j'aurais voulu aussi proposer aux gens d'aller un petit peu s'investir sur Amnesty. Il y a une autre pétition qui parle des colonies. Alors, mon petit point historique, Ronan, je sais que c'est ton année fétiche. En 1967, Israël occupait la Cisjordanie, Jérusalem Est et la bande de Gaza. Mais depuis 50 ans, ça serait ton âge, Ronan, ça. Et bien depuis 50 ans, elle a implanté des colonies en Cisjordanie, à Jérusalem Est, ayant des conséquences, comme nous l'a dit Françoise, désastreuses sur les droits fondamentaux des Palestiniens. Malgré ces colonies ont été dénoncées, c'est un crime de guerre, elles ont été dénoncées. Leur illégalité a fait l'objet de résolutions successives au Conseil de sécurité des Nations Unies, dénoncées aussi par le Parlement européen en 2014. En 2015, la Commission européenne a publié des lignes directrices exigeant l'étiquetage des produits issus des colonies israéliennes complètement illégales. Qui sont des colonies donc, dans les territoires palestiniens occupés. Alors la France, elle a toujours soutenu ses positions, mais pour autant, l'État français doit aller plus loin en interdisant l'importation de biens en provenance de ces colonies illégales et en interdisant aux entreprises françaises d'y avoir une pétition. Alors, si
d'y
ça
avoir
vous...
une...
Une activité. Oui. Non, mais vraiment, je mélange des mots ce soir. Attention, surveillez-moi.
Tu voulais dire qu'il y avait une pétition.
Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est si ça vous cause, voilà. Parce que je trouve que l'explication entre Trump, entre les décisions d'Israël et ces produits-là, ben voilà, si on veut être logique, il y a une pétition. On voudrait atteindre 50 000 signatures, il y en a 40 000, donc 10 000 les Bruxiens, ça me semble bien.
Oui, c'est bien. C'est sûr qu'on pourrait y arriver. Et installer des colonies de façon illégale, c'est comme si, par exemple, comme s'il y avait des Français, enfin l'État français allait installer des résidents français de force en Belgique, en Suisse, ou en Espagne, ou en Italie, ou on ne sait pas où, en disant bah, maintenant c'est chez nous. Voilà.
Tout à fait.
C'est
de
exactement
toute manière,
la même chose.
Les résolutions, voilà, crimes de.
Je les ai vues, les colonies, moi. Hein.
Oui, Françoise est allée en Israël, déjà.
Oui, en Israël et en Palestine.
Et Françoise a fait le monde entier. Donc.
Depuis Bethléem, hein, on les voyait sur les collines, là. J'avais posé la question, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, des habitations, madame, on m'avait répondu. Oui.
Ben oui, bien sûr, on ne va pas trop s'apesantir sur la question. Bien, je crois qu'il y avait Renan qui voulait nous parler de choses positives.
Ouais, je vais faire quelques bonnes nouvelles, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est pas très très gai tout ça. Donc là, en Arabie Saoudite, Zouhair Koutbi, écrivain saoudien, a été libéré après avoir passé 2 ans en prison. Il demeure sous le coup d'une interdiction de voyager et d'écrire sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas les conditions de sa libération. Au Bahreïn, Ibrahim Karimi, prisonnier d'opinion bahreïnite, a été libéré de la prison de Jao à Manama, la capitale de Bahreïn, le 30 octobre. Il a passé plus de 2 ans en prison pour entre autres, outrage public au roi. Et là, on va aller faire un petit tour en Malaisie. La police malaisienne a officiellement clôturé toutes les enquêtes sur Mariochin Abdullah, arrêté en vertu des lois relatives à la sécurité pour avoir organisé un rassemblement en faveur d'élections libres et équitables. Placée en détention et l'isolement pendant 10 jours en novembre 2016, elle a été libérée le 28 novembre et poursuit son travail en faveur des droits humains. Voilà.
Ok.
Ça fait un petit peu de bien d'écouter.
Bah, bien sûr, de toute façon, on en a tout le temps des bonnes nouvelles. Hein. Sinon, on serait moins motivé pour agir, mais Dieu sait qu'on l'est.
Il y a
Françoise qui voulait reprendre la parole.
Françoise prend la parole.
Voilà, elle me fait des signes en disant qu'elle voulait prendre la parole. Ben, on te la donne bien volontiers, Françoise.
Oui, alors je voulais vous parler, je vous en ai déjà parlé, mais d'une avocate que l'on soutient, une avocate thaïlandaise, une jeune femme de 31 ans. Cette jeune femme qui défend des défenseurs des droits humains a été inculpée courant, je crois que c'était en août cet été,
oui.
Bien qu'elle ait reçu, je vous l'avais dit, un prix récompensant des avocats qui luttaient pour les droits humains, un prix au Danemark, Elle avait refusé à ce moment-là de rester au Danemark alors qu'on lui avait proposé. Donc elle est revenue en Thaïlande. Et là, elle a donc au mois d'août reçu une inculpation. Donc elle passera en jugement. Hein. Donc nous la soutenons de notre mieux. Nous avons écrit, nous avons fait des lettres à nos députés, à nos sénateurs. Un sénateur a eu la délicatesse de nous répondre. J'espère qu'il s'engagera pour la défendre. Nous avons écrit aussi aux autorités thaïlandaises, bien entendu, pour la soutenir. Et ce qui serait sympa, c'est que beaucoup de gens lui écrivent pour la nouvelle année et pour son anniversaire qui est le 6 janvier. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par cette action, vous mettez aussi un petit mail sur amnesty.evreux@gmail.com. Et nous vous communiquerons toutes les informations concernant son adresse et la lettre modèle que nous faisons en anglais pour lui écrire. Voilà, ben merci beaucoup.
Bien, je crois que vous voulez dire aussi quelques mots sur les enfants, Françoise.
Oui, je peux continuer ben aussi oui, par les enfants c'est ce migrants.
C'est ce qu'on avait prévu.
Moi, je pourrais dire juste par rapport à ton action, ça fait plaisir aussi, c'est que très souvent, on vous dit, on vous dénonce des violations des droits humains, on parle des États, on parle d'entités gouvernementales ou non gouvernementales, mais on peut aussi envoyer directement à une personne.
Eh oui.
Ça fait du bien, donc n'hésitez pas. Et la personne, ça va la soutenir, June, parce que c'est compliqué.
C'est très important de recevoir des soutiens quand on est soi-même en situation délicate.
Oui, alors je voulais vous parler des personnes sur le traitement des personnes migrantes en France. La CNDH, qui est la Commission nationale consultative pour les droits de l'homme, a publié le 17 octobre 2017 une déclaration alerte sur le traitement des personnes migrantes. À l'heure où le gouvernement envisage une nouvelle réforme du droit de l'immigration, la CNDH s'alarme de certaines orientations des politiques migratoires envisagées par celui-ci et de la multiplication et de la récurrence des violations des droits fondamentaux des personnes migrantes. Elle a donc adopté, à l'occasion de son assemblée plénière du 17 octobre, une déclaration intitulée « Alerte sur le traitement des migrants ». Comme dans nombre de ses avis précédents, s'agissant du droit des étrangers et du droit d'asile, la CNDH s'insurge à nouveau du non-respect des droits fondamentaux des personnes migrantes présentes sur le sol français. Elle regrette également l'absence de réponse efficiente des pouvoirs publics à leur égard. Plus précisément, elle dénonce une réelle dichotomie entre les discours politiques et les conditions réelles d'accueil de ces populations.
Tiens, sur ce sujet-là aussi, il y a dichotomie entre les discours et les actes. Comme c'est bizarre.
La CNDH renouvelle son inquiétude eu égard à l'attitude des forces de l'ordre envers les migrants et les associations qui leur viennent en aide. De même, elle réaffirme sa vive préoccupation quant au traitement accordé aux mineurs isolés étrangers, rappelant que la situation se détériore continuellement et que ces derniers doivent faire l'objet d'une priorité absolue de la part des pouvoirs publics. D'une manière générale, qu'il s'agisse tant de la protection effective des mineurs isolés étrangers que de la mise en place de politiques d'accueil des personnes migrantes, la CNDH exhorte l'État à exécuter les décisions de justice rendues en son encontre. Mais je dois vous dire quand même que j'ai lu un petit article là qui remontait le moral sur une décision exceptionnelle de la Cour d'appel de Toulouse concernant les mineurs isolés. Trois mineurs avaient fait appel de la décision de rejet de minorité et de prise en charge prise à leur encontre par le conseil départemental et le juge des enfants de foi. La Cour d'appel de Toulouse les a rétablis dans leurs droits, soulignant au passage tous les dysfonctionnements et manquements des autorités impliquées. Les décisions intérieures sont donc annulées et les jeunes sont reconnus comme mineurs et confiés à ce titre à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à leur majorité. Une décision exceptionnelle et exemplaire qu'il montre qu'il peut être possible de revenir sur des décisions établies de manière contestable.
De toute façon, on aura l'occasion de reparler de pas mal d'occasions juste après les fêtes de Noël de la situation des réfugiés et des migrants en France. puisqu'on commence à recevoir de l'information là, d'Amnesty France qui participe à l'organisation des états généraux des migrations. Et c'est sûrement une action d'ampleur qui va être reprise partout en France. On aura l'occasion d'y revenir, effectivement, parce que je pense que nous, ici à Évreux, on va sûrement aussi.
Je pense qu'on le fera avec le CFED, avec RESF, parce que quand tu parles des mineurs, je pense qu'effectivement, les amis d'RESF ont ça au quotidien avec des jeunes qui ne sont pas pris en charge, qui sont à la rue.
Tout à fait. Et on aura l'occasion d'y revenir parce que la campagne, dans le cadre de ces états généraux, va prendre de l'ampleur au premier semestre 2018, d'après ce qu'on peut savoir. Il y a Ronan qui voulait prendre la parole. Il trépigne là devant ses boutons.
Non, je trépigne pas.
Devant les boutons
il
de
nous
la
a menacé de nous couper les micros si on ne laissait pas parler.
Voilà, il a failli claquer Ronan, la porte. Il voulait partir parce qu'il en avait marre qu'on ne l'autorise pas à parler. Donc vas-y, Ronan, parle.
Alors là, vous serez mal si je partais.
Oui, on serait mal. Ça, il a raison.
Non, mais moi, c'est l'actualité. Un coup de gueule que j'avais à faire. Et là, on va en Égypte. Ouais, on part en Égypte. Depuis le 22 septembre, date du concert du groupe Mashrou Leila au Caire, au cours duquel un drapeau arc-en-ciel a été déployé, une vague de répression homophobe sévit en Égypte. Des dizaines de personnes ont été arrêtées en raison de leur orientation sexuelle présumée. La plupart d'entre elles ont été piégées par leur utilisation d'applications de rencontres en ligne. Le 26 novembre, la cour d'Al-Bakia du Caire a reconnu 14 individus coupables d'incitation à débauche. Le 3 décembre, le même tribunal a condamné un autre homme pour le même motif. Le 27 novembre, un autre tribunal du Caire a condamné deux autres hommes pour les mêmes chefs d'accusation. Les deux tribunaux ont ordonné leur mise en liberté moyennant une caution de 5000 livres égyptiennes, chacune en attendant leur appel. Toutes ces personnes ont été condamnées à 3 ans de prison et 3 ans de probation, ce qui porte à 49 le nombre de personnes condamnées en raison de leur orientation sexuelle, présumée depuis le début de la répression de la communauté LGBT. Enfin, compte toutes ces condamnations reposent sur la loi numéro 10 de 1961, là on n'est plus en 67, on est en 61, qui prévoit une peine d'emprisonnement de 3 ans pour pratique habituelle de la débauche ou incitation à la débauche, des termes vagues qui ne sont pas définis par la loi égyptienne, ce qui permet aux juges aux interprétations personnelles et la mise en œuvre d'examens anneaux. Les autorités ont ainsi procédé à au moins 5 examens anneaux forcés de personnes arrêtées, ce qui constitue une violation de l'interdiction absolue de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants en vertu du droit international. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui en Égypte.
Voilà, et moi ça m'a fait penser à un petit billet qui est paru toujours dans la dernière chronique, là, le mensuel d'Amnesty, donc on ne peut que vous recommander la lecture, et qui parle aussi du président égyptien.
Il est venu en France.
Voilà, il est venu en France. C'est de la façon dont M. Macron, on en parlait au début de l'émission, M. Macron a un petit peu loupé le coche, on dira. Donc voilà ce que dit le début de l'article. Lors de la présentation de sa politique étrangère sous les ors de la salle des fêtes de l'Élysée à la fin de l'été, le président Macron l'assurait. Alors citation, « Nos échanges diplomatiques et économiques avec la Russie, la Turquie ou la Chine ne sera justifié qu'on recouvre d'un voile pudique la question des droits humains, car alors c'est nous-mêmes que nous trahissons. » Fin de citation. Deux mois plus tard, il ne s'agit plus d'un voile pudique, mais d'une véritable mise sous le tapis des souffrances et des revendications des Égyptiens. L'accession d'Abdel Fattah al-Sissi au pouvoir en 2013 s'est en effet accompagnée d'une répression généralisée au nom de la lutte contre le terrorisme. Bon, là, l'article reprend des choses que vous avez déjà entendues, donc on ne va pas les répéter, mais il se conclut de la façon suivante. Plusieurs ONG, dont Amnesty International, demandaient que la France interpelle son partenaire commercial sur la situation catastrophique des droits humains et suspende le transfert d'armes vers l'Égypte. Pas moins de 6 milliards d'euros d'achats de matériel depuis 2015. Commentaire personnel, peut-être que ces achats de matériel feraient taire la prise de position de certains de nos officiels, même le plus haut placé. Fin de la parenthèse. Mais le chef de l'État français a loupé le coche. Du bout des lèvres, il s'est contenté de rappeler quelques principes généraux sur la démocratie, refusant de donner des leçons. Une défausse qui risque, malheureusement, de passer pour un assentiment. Donc encore une fois, dans cet exemple-là avec l'Égypte, on constate qu'il y a les grandes prises de principe, toujours avec un vocabulaire très marqué et très qui ne laisse pas place à beaucoup de discussions. Et après, il y a les actes, et on s'aperçoit que les actes sont considérablement en retrait, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport au discours. Donc de ça, effectivement, il y en a un peu assez. Voilà, donc c'était pour poursuivre le petit coup de gueule de Ronan. Et je crois maintenant qu'il y avait, il y avait, il y avait, il y avait.
Eh bien, moi, je voudrais bien parler un petit peu.
C'était Edith. C'était Edith qui voulait
voilà,
vous
alors
parler.
C'est pareil, là on vous a fait une émission, je vous promets, on n'a pas calculé avant, mais on rebondit entre les articles...
Enfin, on n'a pas calculé avant, on les prépare quand même, les émissions.
Oui, mais on arrive chacun avec
les... Oui, ils sont pas très raisonnables pour ça.
Oui, avec les articles qui nous intéressent, mais on fait du lien, ça, ce qui n'est pas forcément... on sait des fois, on vous fait des émissions avec plein d'infos. Hein. Et là, tu parles des armes, et moi je vais parler, alors je retourne, aux États-Unis. Non, franchement, j'ai rien contre les États-Unis.
Et tu piques ma rubrique habituelle.
Voilà, parce que Renan, il ne l'a pas vu, tant pis pour lui. Et puis, voilà.
Une fois, je l'ai zappé, ça.
Eh bien, ce qui se passe aux États-Unis, c'est quelque chose qui est inquiétant aussi, c'est le Pentagone américain qui va reporter pour une durée indéterminée l'interdiction sur les vieux modèles d'armes à sous-munitions. On pense que c'est une situation très rétrograde et dangereuse. Les États-Unis ont décidé de ne pas donner de date. Et alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est les armes à sous-munitions. Ce sont des armes qui sont interdites dans plus de 100 pays en raison de leur caractère non discriminant par nature et des risques qu'elles représentent pour les civils. Alors, ce sont des bombes à sous-munitions qui contiennent des centaines de mini-bombes à l'intérieur, petites mais meurtrières. Et le taux de non-explosion de ces armes leur donne une dangerosité qui peut durer très longtemps. Et celles qui n'explosent pas sur le champ restent inactives jusqu'à ce qu'elles soient découvertes par des civils qui ne se doutent de rien. Et très souvent, ce sont des enfants.
Ils perdent une jambe.
Oui. Voilà, des femmes, des gens qui vont se promener pour aller chercher de la nourriture très souvent et elles mutilent énormément ou elles tuent. Donc on ne comprend pas bien la décision du Pentagone de repousser pour une durée indéterminée l'interdiction de ces types les plus dangereux de bombes à sous-munitions. Ça vraiment, ça défie l'entendement. Et pourtant, le Pentagone avait initialement promis d'interdire ces modèles qui donnent lieu à plus de 1% de bombes non explosées. Ils avaient dit d'ici 2019, ouais, mais aujourd'hui...
Oui, mais depuis, il y a Trump qui est arrivé, non ?
Aujourd'hui, il revient sur sa promesse. Il conserve des modèles très anciens qui représentent un taux d'explosion très important, donc 20% et plus, et qui soulèvent de graves questions quant à la vie de civils dans les territoires sur lesquels ces bombes sont lancées, surtout dans les zones de guerre. Donc, et les États-Unis ne vont toujours pas assez loin que les initiatives passées. Et c'est vraiment très inquiétant donc, par rapport au commerce des armes. On leur demande de participer et d'intervenir dans la sensibilisation et le nettoyage des munitions non explosées, parce que c'est ça aussi, après un conflit, il y a des démineurs, mais ça dure des années et ça coûte cher, les démineurs. C'est des métiers très, très compliqués. Et effectivement, ce sont les femmes, les enfants qui sont les victimes.
Les civils.
Donc là, franchement, pareil. Une décision, c'est pas dans la provocation là, mais c'est dans l'incompréhension et l'inquiétude de ces vieilles armes qui risquent encore d'empoisonner des pays où il y a des situations de guerre ou de conflit.
Enfin, quand on parlait tout à l'heure des raisons, il y a peut-être aussi, comme on parlait des 5 milliards d'armes vendues par la France à l'Égypte depuis 2 ans, il y a peut-être aussi des raisons de gros sous.
On va
repousser les interdictions ou l'arrêt de la production.
Voilà, mais là, c'est en plus des armes anciennes qui sont encore plus dangereuses, car elles, beaucoup n'explosent pas.
Mais c'est une histoire financière.
Alors que maintenant. Renan pourrait nous le dire, qu'il est allé la dernière fois au Salon des Armes. Il nous a raconté ce qui s'est passé avec ces armes de torture horribles. Ces mêmes armes les plus récentes sont moins dangereuses, entre guillemets, même si elles sont horribles.
C'est
quoi.
Pas une question qu'elles soient moins dangereuses. C'est qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, le problème de ces armes-là, c'est qu'en fin de compte, certaines bombes n'explosent pas tout de suite. Et ça peut exploser 2-3 ans après.
Elles sont cachées.
Alors qu'à la limite, je ne veux pas dire que c'est mieux qu'elles explosent tout de suite. Au moins, une fois qu'elles ont explosé, c'est fini, quoi. Et là, les gens...
Mais que ça soit le combat des armes ou le combat d'une association comme Handicap International, c'est ces armes-là pour lesquelles on était contre. Il y avait l'air d'avoir un consensus. Et les États-Unis.
Un petit commentaire sur ce que tu as dit sur les armes, les armes de torture qui ont été découvertes au salon Millipol, là, à Paris.
Tout à fait.
Qui t'a motivé à juste titre le coup de gueule dans la dernière émission. Oui. J'ai entendu qu'il y avait toute une émission sur France Inter, alors je ne me souviens plus dans quel cadre, toute une émission sur France Inter qui a repris la même actualité, qui a poussé le même coup de gueule, mais c'était beaucoup plus développé. Et dans ce cadre de cette émission-là, le nom de l'émission m'échappe. Enfin bon, vous pouvez retrouver sur France Inter.
On pourra la retrouver.
Voilà. Et dans dans le cadre de cette émission, il y avait un autre spécialiste d'Amnesty qui était interviewé aussi. C'est le spécialiste de tout ce qui touche aux problèmes d'armement et de pression contre les populations dues au trafic d'armes, qui était interviewé aussi par Amnesty pour expliquer pourquoi ils avaient découvert ces armes sur le stand du fabricant chinois, effectivement, au Milipol. Donc il y a eu toute une émission qui a été consacrée à ça.
Mais tu veux dire par ça qu'en fin de compte, France Inter nous écoute, nous a piqué notre idée, quoi.
Ben, c'est un peu ça.
Ah, ils donnent des infos, ouais. Puis nous on les reprend parce que oui, c'est
non, mais c'est nous qui avons fait la foi.
Ça y est, ça me revient le nom de l'émission, ça s'appelle Un bruit qui court.
C'est l'émission du week-end.
Il y a toute une partie de l'émission d'il y a 15 jours, je ne sais plus quand, qui a été consacrée.
Et là, on peut la regarder sur le site de France Inter.
Je vais plutôt l'écouter.
Les réécouter.
Oui, mais on peut même regarder des fois. Après, maintenant, ils font un peu de vidéos aussi.
Bon. Alors, pour ne rien vous cacher, moi j'avais prévu de faire un petit sujet, mais ça va être trop tard parce que je vois qu'on est.
Non, mais ça ne sera pas la prochaine émission.
Mais voilà, surtout que c'était un sujet optimiste par rapport à pourquoi effectivement s'encourager. Pourquoi ça ? Il y a Françoise qui me fait
rigoler. Françoise, elle me fait rigoler.
Françoise, elle
veut reprendre la parole. Donc voilà, donc je l'ai laissé parler et en fait, dans ma petite chronique qui était une chronique plein d'optimistes,
on
vous la fera pour le 26 décembre, comme ce sera juste après Noël, ce sera très bien.
Oui, alors moi, finalement, ça rebondit sur ce qui a été dit aussi, parce que j'ai aussi une action urgente concernant les États-Unis. Des agents des services frontaliers séparent des familles de force. Et donc, ça a un rapport aussi avec les mineurs, les enfants mineurs. Donc, des agents des services frontaliers des États-Unis ont séparé de force 4 pères demandeurs d'asile centra-américains de leurs jeunes enfants après leur arrivée aux États-Unis en violation des normes américaines sur la préservation de l'unité familiale dans le contexte de la détention liée à l'immigration. Ces parents sont depuis lors en grande détresse psychologique et on ignore toujours où se trouvent 2 des enfants. Bon, alors je ne vais pas vous lire le détail de l'action. Mais donc nous écrivons aussi aux autorités, à l'agent de liaison frontière avec la collectivité, au directeur du bureau local à San Diego, c'était des familles qui arrivaient de San Diego, inspecteur général du DHS, et nous écrivons évidemment à l'ambassadeur. Voilà, vous avez des modèles de lettres en français, en anglais, et pour ce faire, eh bien, vous n'avez qu'à vous signaler sur amnesty.evreux@gmail.com si vous souhaitez faire cette action urgente. Il faut la faire avant le 3 janvier. Hein? Dépêchez-vous.
Ouais, si je comprends bien, nos auditeurs, tu leur donnes du travail.
François, elle donne du travail pour les vacances.
Non, mais elle a raison, parce qu'on parle toujours des grands sujets, mais Amnesty, c'est aussi l'action de tous les jours.
Et oui, c'est avec un travail de fourmi.
Avec une lettre, plus une lettre, plus une lettre, un tweet, plus un tweet, plus un tweet, etc., etc. Une signature, plus une signature, plus une signature. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais Françoise a entièrement raison de nous rappeler.
Voilà, il faut que vous soyez au courant, c'est ça, ces infos-là, elles ne passent pas forcément tout le temps.
Dans les médias, non.
Ah ben, en général,
jamais, je dirais.
Enfin, elles passent pas souvent. Pas souvent. Jamais, c'est... Bon, on va peut-être faire quelques minutes de musique. Et là, c'est une chanson, vous allez la reconnaître, je vous le dirai après, mais c'est une chanson consacrée à l'actualité.
À condition que je n'ai pas changé le titre.
Ah bah peut-être, si notre technicien a changé le titre.
Alors on va écouter.
Je vais complètement me tromper.
Et après...
Mais normalement, moi j'avais prévu une chanson qui va vous rappeler Noël, forcément.
So this is Christmas. What have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear one. The so happy Christmas for black and for white, for
Voilà, donc de retour sur l'antenne de Principe Actif. Bon, vous avez reconnu la chanson, hein, une chanson de John Lennon. Je rappelle que les droits des chansons de John Lennon sont toujours reversés à Amnesty International. C'est un soutien permanent. Et donc, on vient d'écouter donc John Lennon pour la chanson Happy Christmas. Et le sous-titre, c'est War is Over.
C'est bon, je ne me suis pas trompé.
Non, c'est ça. Et ce qui veut dire en anglais, la guerre est finie. Et c'est la dernière phrase de la chanson, c'est la guerre est finie, trois petits points, si vous le voulez.
Bien sûr qu'on le veut.
Donc voilà. Bon, bah, pour terminer l'émission, on va refaire un petit coup de chapeau quand même à nos jeunes, j'allais dire à nos jeunes, à nos militants des lycées là, qui se sont particulièrement, c'est important de le souligner, particulièrement mobilisés pour les 10 jours pour signer. Et en même temps, pour vous rappeler qu'on ces pétitions pour 10 jours pour signer, qui sont toujours sur le site aussi d'amnesty.fr. Hein, vous pouvez toujours les faire jusqu'à la fin du mois, d'après ce qu'on m'a dit.
Et même sur Évreux.
Et que vous pouvez aussi les signer à Évreux, c'est ça. Le jeudi et vendredi prochain. Donc, ce sera le... Je ne sais plus la date.
Le 15.
Le
14 et le 15.
Voilà. Jeudi 14 et vendredi 15, puisqu'on sera présent au Cube, à la salle des musiques actuelles, l'invitation du Tangram, puisqu'il y a un spectacle, une pièce de théâtre qui s'appelle Frères et qui parle de la guerre civile espagnole. Et donc, on y sera présent les deux soirs. On tiendra un stand autour des 10 jours pour signer. Donc,
aura des pétitions.
Si vous n'avez pas signé les pétitions sur papier, eh ben, vous pouvez toujours venir nous voir. On aura tout ce qu'il faudra avec une documentation autour de cette campagne. Et donc, on sera présent les deux soirs. Donc, si vous arrivez un peu avant la représentation qui a lieu à 20h, eh ben, vous pouvez vous arrêter sur le stand, discuter un peu avec nous.
Même après. Hein.
Et puis signer les pétitions ou après le spectacle, effectivement. Je pense que ce sera un spectacle très intéressant.
Et on
jeudi
sera présent.
Et vendredi pour les deux spectacles. Oui, tu voulais dire, Renaud.
Non, je veux dire qu'on sera présent. Ça, c'est toujours sympa qu'ils viennent discuter avec nous, les auditeurs.
Voilà. Donc, ça, c'est notre actualité locale. Sinon, la prochaine émission, bah, c'est le 26 décembre. Et puis personne n'a un petit mot à dire pour comment on termine l'année, puisque je vois qu'il nous reste encore 2 minutes d'antenne.
2 minutes.
On est en avance pour une fois.
Souhaiter un joyeux Noël.
Oui, bien sûr. Joyeux Noël à tout le monde. Non, mais c'est important.
Bah oui, parce que bonnes fêtes pour les jeunes aussi, de bons congés, parce qu'ils auront beaucoup travaillé pour Amnesty.
Et
après,
continuer à se battre pour la bonne cause.
Oui, pour les bonnes causes.
Comme dit
Renan, continuer à se battre pour les bonnes causes, oui, effectivement. Et donc, non, mais c'est important, on vous le répète à longueur d'émission, mais ce qui fait bouger les choses, c'est notre engagement à tous. Là, vous nous écoutez à travers les ondes de Principe Actif, mais c'est notre engagement à tous. Et c'est ce qui fait progresser les choses. C'est aussi quelque chose qui nous revient régulièrement
tout
quand
seul,
on tient des stands.
En fin de compte,
je me rappelle d'une fois au lycée, la semaine dernière, là, au lycée
Aristide,
merci, Edith, où il y a quelqu'un qui est passé, un jeune qui est passé en nous voyant, puis en disant « Oui, bon, c'est intéressant, mais à quoi ça sert? Vous obtenez des choses par rapport à ça ?» Et je lui ai expliqué que, bah oui, on obtient des choses, qu'on obtient des libérations, et qu'on obtient l'avancée des dossiers, qu'on obtient la suspension de jugements prévus, qu'on obtient l'amélioration des conditions de détention en prison, qu'on obtient aussi que des gens soient arrêtés et jugés, alors qu'ils sont des criminels, etc., et que personne ne les inquiète. C'est aussi ça, Amnesty, effectivement. C'est pas que la libération des gens, mais c'est aussi les gens dont on arrive à obtenir l'inculpation, même si c'est pas simple.
Ce qui les a étonnés aussi, c'est qu'on fasse signer par rapport à des gens qui étaient morts. Alors, je leur ai expliqué qu'on demande justice pour ces gens-là qui ont été tués, enquête, etc.
Des gens qui ont été...
Donc ça, les jeunes ont été un peu surpris de ça. Enfin...
Tout à fait. Et qu'Amnesty, c'est tout ça, et qu'on obtient des résultats. Et que, bon, je pense que nous tous, autour du micro, on a tous plus ou moins vécu des choses qui ressemblaient à ça dans notre passé de militant avec Amnesty. Ouais. Mais c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un qui vous dit, bah, grâce à vous, je suis libre, ou grâce à vous, ma vie a été sauvée.
On sait pourquoi on fait ça.
Mais ça, c'est important de le rappeler parce que, évidemment, c'est pas une garantie, ça marche pas à tous les coups, ce serait évidemment trop simple, mais c'est quelque chose qu'on obtient régulièrement le long des campagnes. Et bien sûr que les jeunes des antennes seront informés de toutes les avancées à laquelle ils auront participé. Mais on va s'arrêter parce que maintenant, il est l'heure de rendre l'antenne. Donc, on vous donne rendez-vous le 26 décembre, 19h, sur l'antenne de Principe Actif. Bonne fête.
Bonne fête.
Bonne fête.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.